Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce samedi 16 octobre. Samuel Paty, une part de l'idéal républicain assassiné. Ce sont les mots de Jean Castex à l'instant. Journée d'hommage aujourd'hui. Cela fait un an que le prof d'histoire géo a été décapité. Nous serons dans l'Oise dans un instant et mon invité sera Yannis Roeder, prof d'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité. Autre dossier, comment redynamiser la cité phocéenne? Comment créer de l'emploi pour les jeunes? C'est l'opération Marseille en grand lancée début septembre par le président Macron. Il est revenu hier pour ramasser les copies des paroles. Oui, mais des actes. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence sera avec nous. Les massacres des Algériens du 17 octobre 1961, commémoration encore. Et une première, un chef d'État qui se rend sur place, ce sera cet après-midi. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, du beau et du doux ce samedi et cet après-midi, des maximales entre 15 à Dunkerque et 22 à Marseille. Le beau temps qui revient partout progressivement, excepté peut-être du côté d'Agen, dans les terres normandes et le Lyonnais. Le ciel qui est un petit peu plus voilé aussi entre Paris et Lille.
Météo complète bien sûr, juste avant 13h.
Europe 1.
C'était donc il y a pile un an, le professeur Samuel Paty était poignardé et décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. C'était lors d'un cours sur la liberté d'expression. Les hommages vont donc se succéder toute la journée. On va aller tout de suite à Erani, dans l'Oise. C'est là qu'habitait le professeur d'histoire géo, Yasmina Katou. C'était ce matin l'hommage rendu par les habitants.
Oui, cette cérémonie d'hommage s'est ouverte avec un discours du maire d'Erani devant plus de 300 habitants. Pour l'occasion, c'est une immense fresque multicolore qui a été dévoilée sous les applaudissements. Peinte sur le mur du gymnase de la ville, au centre, une Marianne qui n'a pas le poing levé mais une main devant la bouche, symbole de la liberté censurée, des figures de l'éducation comme Jules Ferry et puis une citation de Victor Hugo, « La liberté commence là où l'ignorance finit ». Dans la foule, un an après, l'émotion est toujours vive. Marie, habitante d'Erani, est venue rose blanche à la main, les larmes aux yeux.
Il était important pour moi, habitante d'Erani, d'être présente avec ma fille. Même si on ne connaît pas cette personne, c'est un acte tellement atroce qu'il fallait que je sois là.
Sa fille, Aude, 15 ans, était à ses côtés.
Pour lui rendre hommage et pour qu'il sache que on l'oublie pas et que ça aurait pu être mon prof d'histoire, donc j'aurais pu le connaître personnellement. C'est dans notre ville que ça s'est passé, donc il y aura toujours cette marque de cette personne qui est décédée à Erani, donc c'est triste quoi.
Et pour défendre la liberté d'expression et la laïcité, des enfants se sont succédés sur une estrade pour lire des poèmes sur ces thèmes. Et l'hommage s'est terminé avec la Marseillaise entonnée par les élus et les habitants de la ville d'Erani.
Merci Yasmina Katoua, à Erani sur Oise. Donc bonjour Yannis Roeder.
Bonjour.
Vous êtes prof d'histoire en Seine-Saint-Denis, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, membre également du Conseil des sages de la laïcité. Ces hommages aujourd'hui, mais également hier, partout en France, dans les collèges et lycées, c'est nécessaire. Ne surtout pas oublier, rouvrir le débat en permanence.
Oui, bien sûr, l'hommage est absolument nécessaire. Vous savez, un hommage, c'est un moment d'unité, un moment d'union, union évidemment nationale, mais aussi union dans les établissements scolaires, de la communauté éducative, aussi bien les adultes que les élèves. C'est un moment important. Il faut se souvenir de cet acte absolument abominable, de l'assassinat, de la décapitation d'un professeur dans ses fonctions.
Bien sûr.
Donc c'est un moment extrêmement, extrêmement important.
Yannis Roeder, il y a ce chiffre communiqué ce matin par l'Éducation nationale. Il y a eu hier 98 incidents, dont 7 menaces dans les établissements scolaires pendant ces hommages. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot.
Nous le savions. On peut essayer de se voiler la face, mais la réalité, nous la connaissons. Nous savons très bien que il y a des gens qui ont trouvé normal finalement que notre collègue soit assassiné. Il y a des gens qui ont pensé que finalement c'était bien fait. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces gens, et notamment malheureusement certains élèves, auraient changé d'avis. Nous le savons, oui. Nous savons qu'il y a un immense travail à faire, un immense travail de réflexion, essayer de comprendre ce qui permet d'affirmer des choses comme cela. Et ça, c'est d'abord le travail des enseignants.
Restez avec nous, Yannis Roeder. Une plaque a été inaugurée ce matin dans l'entrée du ministère de l'Éducation nationale. Plaque en la mémoire, bien sûr, de Samuel Paty. Il y avait plusieurs ministres, dont le premier d'entre eux, Jean Castex. On l'écoute.
Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République. Et avec elle, à nos libertés fondamentales, dont elle est la garantie autant que la condition. Nous devons tous les jours rester fidèles à la mémoire de Samuel Paty. Car avec sa mort, c'est une part de nous-mêmes, c'est une part de l'idéal républicain qui ont été pris pour cible. Vivre avec, c'est difficile. Mais rien ne saurait être pire que l'oubli.
Yannis Roeder, vous étiez sur place, vous également, une part de l'idéal républicain qui est parti avec Samuel Paty.
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est tout le symbole qui est important dans ce que dit le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que l'école ? L'école, c'est l'école de la République, c'est l'espace de l'émancipation. L'idéal républicain, c'est l'émancipation de tous les individus, c'est ce qui permet de construire la citoyenneté. Et c'est bien sûr cela, l'émancipation, c'est-à-dire la liberté, le libre arbitre, c'est cela qui a été assassiné aussi, qu'on a cherché à assassiner avec notre collègue. Voilà, c'est ça qui est important, c'est ce que veut dire, je pense, le Premier ministre.
Yannis Roeder, il faut le rappeler, vous êtes, vous, également prof d'histoire. Est-ce qu'on fait cours différemment depuis un an ?
Écoutez, c'est très difficile à dire parce qu'il faudrait des enquêtes de terrain qui nous montrent éventuellement des évolutions. Mmh. En ce qui me concerne, je ne peux parler que de ce que je vois dans mon établissement ou de ce que je fais. Rien n'a changé pour moi. Je continue à enseigner et à essayer de faire comprendre les idéaux, les valeurs et les principes de notre République, mais aussi en donnant du sens à l'école. Pourquoi les élèves sont à l'école ? Que cherche à faire l'école ? En essayant d'expliquer qu'on n'est pas seulement là pour recevoir un enseignement disciplinaire. On est là aussi pour se construire en tant que citoyen et futur citoyen de plein droit de la République française.
Restez encore un peu avec nous, Yannis Roeder. Je vous présente un livre que vous devez bien sûr connaître. C'est cet abécédaire républicain. Il est sorti chez Fayard. C'est une initiative d'une maîtresse d'école en Alsace, école maîtresse de primaire. C'est un recueil de dessins d'enfants autour des valeurs de la République et de la laïcité. Avant-propos signé Robert Badinter, Céline Géraud.
Samuel Paty a consacré sa vie d'homme à la plus belle des missions, éduquer les jeunes dans le respect des lois et des valeurs de la République pour lesquelles il a donné sa vie.
De novembre 2020, deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, Robert Badinter s'adresse à tous les professeurs et les élèves de France. C'est ce message qui va inspirer Peggy, la maîtresse d'une classe de CM1-CM2 à Schiltigheim en Alsace. Un an plus tard, cet abécédaire républicain sort en librairie. Un petit exploit pour cette classe située en zone prioritaire et qui compte pas moins de 13 nationalités dans ses rangs. De A, comme accepté, à Z, comme zèle, en passant par M, comme Marianne. Les 23 écoliers croquent au crayon de couleur la laïcité et les valeurs de la République. 26 dessins, naïfs, touchants, à tel point que Robert Badinter a tenu à rédiger l'avant-propos de ce petit ouvrage avec ces mots « J'espère que, grâce à vous, cet abécédaire sera présent dans toutes les écoles de France. »
Voilà, l'abécédaire républicain, donc, chez Fayard. Yannis Roeder, vous êtes vous-même membre du Conseil des sages de la laïcité. Un plan de formation à la laïcité va être lancé mardi prochain, c'est ça ?
Exactement, il débute mardi prochain, tout à fait.
Qu'est-ce qui va être dit ? À quoi ça va servir ?
Alors, le plan est un vaste plan hein, oui. Qui va s'étaler sur 4 ans et qui commence par la formation, avec 10 jours de formation étalés sur 2 ans, de 1000 formateurs qui vont être formés aux valeurs et aux principes de la République, avec non seulement du contenu, du fond, ouais. Mais aussi beaucoup de cas pratiques et donc de la résolution de cas pratiques.
Pour ne pas laisser les profs seuls finalement, c'est ça ?
Exactement. Et ces formateurs iront ensuite alimenter les équipes valeurs de la République qui existent déjà dans chaque académie et permettront des formations Au niveau des établissements, dans chaque établissement de France, le but étant que d'ici 4 ans, chaque personnel de l'éducation nationale ait reçu un temps de formation suffisant pour être solide sur les bases qui sont les nôtres.
Voilà, hommage à Conflans-Sainte-Honorine encore cet après-midi avec les anciens collègues de Samuel Paty, la famille du professeur qui sera reçue ensuite par le chef de l'État. Grand merci à vous Yannis Roeder. Merci beaucoup. Je rappelle votre dernier livre que vous venez de publier, Prof, Mission Impossible, aux éditions de l'Aube. Grand merci à vous.
Europe Midi Weekend.
Thierry Dagiral.
1h20, la deuxième partie de votre journal de la mi-journée. On va tout de suite aller à Marseille. Emmanuel Macron, au chevet de la cité phocéenne, il avait lancé début septembre, on s'en souvient, le plan Marseille en grand. Il est revenu hier, notamment dans les quartiers nord, pour faire un point d'étape avec les élus et les associations. Dans la foulée, il vient de clôturer le Congrès national des sapeurs-pompiers. Où vous vous trouvez actuellement, Stéphane Burgat?
Oui, il est toujours en train de s'exprimer. Il a pris un petit peu de retard face à cet auditoire de pompiers qu'il attend à bien de pied ferme, notamment sur la question des compensations, retraites dérisoires des pompiers volontaires. Alors, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, il était surtout attendu à Marseille pour le suivi de ce plan, grand plan pour la ville. Le chef de l'État qui a justement échangé assez longuement hier soir avec des élus locaux, il tient à suivre l'évolution de ce plan personnellement et au plus près. Écoutez.
Pour moi, c'est très important que ces rendez-vous se tiennent et surtout qu'ils soient suivis des faits. Le pacte qu'on a passé, ce Marseille en grand, c'est un pacte de confiance avec les élus, les entrepreneurs, les associations, pour essayer d'inventer une méthode nouvelle parce que les difficultés sont tellement exceptionnelles et les potentialités sont tellement grandes qu'il y a quelque chose ici à inventer. Moi, j'en suis convaincu. Et qu'il y a une jeunesse qui est là, qui, si on n'arrive pas à accélérer justement notre action, part du mauvais côté.
Voilà les équipes du maire, hein, Benoît Payan, qui sont ravis finalement de constater qu'Emmanuel Macron se montre attentif aux moindres détails techniques, que les dossiers sont épluchés ligne par ligne, mais il y a à la fois et surtout de l'impatience, notamment sur le dossier des 174 écoles à construire ou à rénover, car on ne sait toujours pas, à l'issue de ce déplacement présidentiel, quelle part financière sera engagée précisément par l'État, alors que la municipalité se dit est déjà prête à enclencher ses travaux sur les écoles. Le président de la République qui reviendra à Marseille pour un nouveau point d'étape, ce sera en février prochain.
Merci Stéphane. Stéphane Burgat, correspondant Europe 1 à Marseille. Bonjour Jean-Luc Chauvin.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence. Un bon point, le président est revenu et suit le dossier. Un mauvais point, il faut maintenant des actes.
Bah écoutez, c'est bien effectivement que le président revienne, c'est une méthode entrepreneuriale. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que le monde économique a cette vision de faire de ce territoire la deuxième métropole de la France, ouais. La grande capitale de l'Europe du Sud. Et de la Méditerranée, et donc on partage cette vision. Mmh. En revanche, je pense qu'on a tous des responsabilités dans la situation actuelle du territoire, que ce soit l'État, par un certain nombre de choix qui n'ont pas été faits, que ce soit les collectivités ou avec les élus, que ce soit peut-être le monde économique et les syndicats de salariés et les citoyens ensemble. Et donc, effectivement, plutôt que regarder dans le rétroviseur, je crois qu'aujourd'hui, nous, on dit chiche au président de la République, chiche pour remettre en place tous les projets qui sont nécessaires pour faire cette grande métropole, mais sans le si. Parce que si on commence avec le si, on connaît trop la méthode. L'État a des responsabilités, comme tout le monde, avec des promesses faites et non tenues. Donc on dit chiche et on prend, je dirais, de façon positive, d'une part, sa deuxième venue hier et aujourd'hui, sa nouvelle venue au mois de février,
Surtout
la nomination d'un sous-préfet à ce plan Marseille en grand. Mais il est important que pendant ces six mois qui sont quand même une période un peu particulière, on puisse avec ce sous-préfet tous ensemble. Le monde économique, bien sûr, les politiques, évidemment, les élus, évidemment, l'État aussi, mettre en place les bases de cette nouvelle gouvernance, la suppression de ces conseils du territoire pour redonner, enlever un échelon et redonner de la fluidité, redonner des moyens financiers. Et l'État qui investit aux côtés de ce territoire, aux côtés des habitants de ce territoire, pour en faire un grand peuple.
Jean-Luc Chauvin, vous avez une idée de l'enveloppe, de la contribution de l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce que vous dites finalement au président Macron? Les promesses, c'est bien, maintenant il faut de l'argent. Il faut vraiment une vraie enveloppe chiffrée.
Je crois que les intentions, c'est bien, mais qu'aujourd'hui, il faut passer aux actes. L'action, c'est encore mieux. Et il faut rentrer dans l'action. Et dans l'action, bien sûr, ce qui manque...
Et on n'y est pas
toujours,
encore. On n'y est pas encore.
Voilà, ben non, on n'y est pas encore. Et ce qui manque, comme toujours, c'est de l'argent. Donc il faut que le président aussi fasse sa part, je dirais, pour débloquer les systèmes en mettant de l'argent concrètement. Le principal problème de la métropole ex-Marseille-Provence, c'est ses transports qui empêchent des salariés de venir de prendre des postes. Et donc cette mobilité où on a plus de 40 ans de retard, où les entreprises payent déjà 350 millions d'euros par an directement de taxes, donc c'est pas envisageable, comme certains peut-être l'imagineraient, de contribuer en supplément pour un service quasi inexistant. Il faut qu'on trouve les solutions pour mettre les moyens.
Monsieur
Chauvin, les écoles marseillaises, c'est très important aussi de former la jeunesse dans des conditions normales et dignes.
Tout à fait.
C'est
rapidement,
un abandon sinon de la République.
On sait qu'il y a une guerre entre les élus marseillais. Il faut, pour ce grand Marseille, finalement s'entendre. Est-ce que les élus marseillais sont prêts à cela?
Moi, je ne sais pas s'il y a une guerre. Ce que je sais, c'est que les élus marseillais ont des positions, alors marseillais ou de tout le territoire, ont des positions différentes. Bon, le vrai sujet, c'est qu'au-delà de ces sujets d'élus, il y a des citoyens.
Oui.
Et là, on a l'opportunité de mettre en place quelque chose qui permette de faire un saut en avant, un saut quantique pour les citoyens. On n'a pas de RER, on n'a pas de liaison rapide entre le centre-ville de Marseille et l'aéroport, ni entre le centre-ville d'Aix et l'aéroport. Donc on a un retard considérable. Je crois qu'il faut que tout le monde oublie les querelles du passé, arrête de regarder dans le rétroviseur, arrête de regarder
et se mettre à table rapidement.
Et se mettre dans une vision constructive pour rendre un service collectif de qualité à nos concitoyens. C'est ça l'enjeu.
Message passé, merci. Le président de la CCI Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin. Grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
Et décidément un samedi chargé pour Emmanuel Macron, puisqu'il déposera en milieu d'après-midi une gerbe sur les berges de la Seine, sur le pont de Beson qui relie Nanterre et Colombes. C'est là qu'il y a 60 ans pile a eu lieu le fameux massacre des Algériens, des manifestants qui arrivaient du bidonville de Nanterre à l'appel de la branche du FLN installée en France. Il y aurait eu, selon les historiens, près de 200 morts. Emmanuel Macron sera le premier président à se rendre sur ce lieu de mémoire. Il sera accompagné de l'historien Benjamin Stora, pour qui c'est un chantier qui s'ouvre. Il était, Benjamin Stora, l'invité ce matin sur Europe 1 de Jean-Pierre Elkabbach.
Je pense qu'il faut que la France reconnaisse cette tragédie comme une tragédie inexcusable, dans le fond, bien entendu, comme une sorte de crime qui a été décidé, bien entendu. Vous avez quand même des dizaines et des dizaines d'Algériens qui ont été tués. Non,
mais c'est la responsabilité de l'État ou de l'administration?
Il y a une responsabilité de l'État sous l'autorité de Maurice Papon. Donc ce n'est pas un seul discours d'excuse ou de repentance qui réglera une blessure mémorielle profonde. C'est un chantier qui s'ouvre. Le président de la République a décidé de mener cette bataille mémorielle de manière méthodique et organisée. Par parenthèse d'ailleurs, on a plus avancé sur le chantier mémoriel en quelques mois qu'en 60 ans.
Benjamin Stora ce matin sur Europe 1. Un mot de politique avec ce sondage IFOP ce matin dans le Figaro. Le Pen, Zemmour et Bertrand dans un mouchoir de poche, 17, 16 et 15%. Valérie Pécresse et Michel Barnier sont en baisse. Michel Barnier qui sera demain l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à 10h. Dans un instant, la suite d'Europe Midi Week-end. Angers, pas content après sa défaite face au PSG. Nous serons également en direct du ministère de la Culture. Manifestation ce matin du collectif MeToo Théâtre et puis le cinéma avec Laurie Choleva. Ne quittez pas, on revient dans un instant.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
1h10, dernière partie de votre journal de la mi-journée. Le foot avec la 10e journée de Ligue 1 et le PSG qui a eu très très chaud et qui s'est finalement imposé face à Angers 2-1. But de Pereira et pénalty de Mbappé contesté. En effet, le pénalty a été accordé malgré une faute flagrante d'un Parisien sur un Angevin. Écoutez l'incompréhension de Gérald Baticle, l'entraîneur d'Angers.
Je suis favorable à la VAR parce que pour moi la VAR corrige 70-80% des erreurs. Par contre, lorsque vous êtes dans les 20% qui ne sont pas corrigés, ça fait très mal. Il y a beaucoup d'incompréhension, un gros sentiment d'injustice. C'est tout simple, sur le second but, on a la capacité avec la VAR de revenir pour savoir s'il y a main ou pas. Et moins de 2 secondes précédemment, on n'a pas la capacité à voir que mon défenseur il se retrouve allongé au point de pénalty parce qu'il est plaqué au sol. Dans le football, si vous voyez un défenseur qui peut sauver un but s'allonger, c'est pas possible. C'est qu'il y a une faute, évidemment. Donc ça, c'est pour le deuxième but. Et pour le premier, Kylian Mbappé est en position de hors-jeu au moment du départ du ballon. C'est pour ça que c'est très dur. C'est doublement difficile à encaisser.
Voilà, Gérald Baticle avec Cyril de la Morinerie. Et puis à 15h, Clermont reçoit Lille et à 19h, Monaco se déplace à Lyon. Le hashtag MeTooTheatre a été lancé il y a 10 jours maintenant. Vous le savez, ce sont des comédiennes, des metteuses en scène qui dénoncent des actes d'agression sexiste et sexuelle dans le milieu. Elles se sont donné rendez-vous ce matin devant le ministère de la Culture. Où vous vous trouvez, Thibaut Hue ?
Et 200 femmes se sont rassemblées dans le calme. Elles sont comédiennes, autrices, scénaristes. Sur leur pancarte, leur banderole, on peut lire « Il m'a violé, vous l'applaudissez » ou encore « Mort à l'Omerta ». Dans la foule, Marie a lancé il y a quelques jours le hashtag MeTooTheatre sur Twitter en témoignant avoir été violée par un comédien de la Comédie française. Ce rassemblement est pour elle un soulagement.
D'avoir vu les victimes aujourd'hui des autres affaires, le fait qu'on se prenne dans les bras, il y a quelque chose, oui, de très fort et c'est très beau. Et je crois que c'est ça, l'humeur générale, c'est la joie d'être ensemble, la joie d'être entendue et on espère que ça va durer.
Agathe est comédienne, elle fait partie du collectif. Si la parole s'est libérée, ce n'est pas suffisant. Elle demande des mesures concrètes.
On demande une enquête au niveau national pour que des chiffres soient posés, parce que les chiffres et les statistiques, ça c'est indiscutable, et pour qu'on mesure aussi l'ampleur de ce phénomène dont nous, on est témoins tous les jours dans nos milieux. C'est d'accéder à un système de parité au sein des programmations, au sein des institutions, pour que le rapport de force puisse changer.
Les prises de parole viennent de se terminer, mais la place du Palais Royal n'a pas désempli.
Merci Thibault. Thibault Hue devant le ministère de la Culture à Paris. Et dans une heure, vous avez rendez-vous avec Laurie Choleva pour Clap, le magazine du cinéma. Bonjour Laurie.
Bonjour Thierry.
Alors Laurie, votre conseil ciné du samedi, Eiffel, quand Romain Duris ressuscite Gustave Eiffel, bien sûr.
Et oui, dans Eiffel, donc, de Martin Bourboulon, qui change de registre après avoir réalisé Papa ou Maman, et livre avec Eiffel un film ambitieux, une véritable reconstitution historique. Alors, ce n'est pas un biopic classique, en fait. Le film se concentre sur la grande histoire d'amour de Gustave Eiffel avec Adrienne Bourgès, qui l'aurait amené, c'est ce qu'on dit, à construire la tour Eiffel.
Une tour, 300 mètres. Entièrement en métal. Cette tour, messieurs, c'est Paris.
Alors, quand on voit le film, on pense immédiatement à Titanic de James Cameron et au duo Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Il faut savoir qu'il y a un très bon équilibre, tout comme dans Titanic d'ailleurs, entre l'effet historique et la romance entre Eiffel, joué donc par Romain Duris, et Adrienne Bourgès, qui est jouée par cette magnifique actrice révélée par la série Sex Education, Emma McKee. Et puis l'autre réussite du film, ce sont vraiment les décors sublimes. On se replonge dans le vieux Paris brumeux, on a l'impression de marcher sur le chantier de la Tour Eiffel, et on est vraiment ébloui par la reconstitution de tout l'univers de l'époque. Écoutez justement Romain Duris nous en parler.
La déco avait eu la bonne idée de construire un des pieds de la tour à échelle 1, c'est-à-dire en grandeur nature. De façon à ce que quand on joue des scènes entre nous, ou avec des ouvriers, ou des scènes d'amour intimes avec Adrienne, on soit devant ou derrière un pilier qui est en grandeur nature. Donc ça, c'était super d'avoir ce rapport-là et de ne pas être sur fond vert tout le temps et de se dire que ça sera génial plus tard.
Voilà pour Eiffel. Et puis à Laurie, à 14h au sommaire de Clap.
J'aurai le plaisir de recevoir l'iconique Elsa Zilberstein pour revenir sur la comédie « Tout nous sourit » pour laquelle elle avait reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de l'Alpe d'Huez, un film de Mélissa Drijard maintes fois repoussé à cause de la crise sanitaire, qui parle de la famille d'une façon tendre, tragique et surtout très drôle. C'est vraiment un énorme coup de cœur.
Merci Laurie, on vous retrouve bien sûr dans une heure sur Europe 1. Il nous reste à voir la météo.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur ? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Valérie Darmon, un ciel plutôt bien bleu encore.
Effectivement, dans le nord-ouest, brumes et brouillards se sont dissipés généralement. Reste juste quelques nappes en campagne normande. Et c'est maintenant que le soleil revient. Sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Poitou-Charentes, le centre, la Bourgogne. Jusqu'à l'est de la France, le soleil est déjà revenu depuis deux bonnes heures, mais de nouveaux brouillards se formeront dans la soirée sur le Limousin et en plaine d'Alsace. Soyez donc prudents si vous devez circuler sur ces régions ce soir. Même chose entre Langon et Toulouse, en Aquitaine, où résistent quelques plaques de nuages bas. Sinon, partout ailleurs, le soleil brille. Il fait particulièrement beau en montagne du matin au soir et doux cet après-midi. Je vous donne donc quelques maximales en ce samedi 16 octobre. 17 annoncé par Météo France à Troyes, à Rodez, à Dijon et Saint-Brieuc. 18 à Paris, au Mans, à Lorient et à Cherbourg. 19 à Toulouse, à Montauban, à Limoges. 20 degrés à Tarbes et Poitiers. 21 à Bordeaux et Montpellier. Et 22 à Perpignan et à Toulon.
Mais que c'est bon, profitez-en bien. Merci Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit l'acteur et réalisateur Bernard Campan. A tout de suite sur Europe.